Oui, j'ai toujours rêvé de voir les enfants de la diaspora épanouis. Mais aujourd'hui, quand je vois Maman Africa, je me dis, si le rêve est encore permis. Maman Africa déchirée par l'esclavage. Maman Africa dépouillée par la colonisation. Maman Africa endettée par le FMI et la Banque mondiale. Maman Africa divisée par l'idiotie de ses dictateurs et l'hypocrisie de l'Occident face à ses maux. À l'horizon, espoir, car la conscience internationale africaine a semé ses graines dans la souffrance, la frustration et l'humiliation de tes enfants. Marcos Garvey l'avait prédit, Malcolm X en a consacré sa vie, Thomas Sankara contre l'oubli. Génération sacrifiée, génération charnière, l'heure de la rédemption a sonné. Enfant de la diaspora, Maman Africa t'appelle. C'est le souffle de tes ancêtres. Parqués dans les ghettos, ils t'ont servi la culture de l'arrogance et de l'extravagance. La culture de l'apparat et du matuvu. Et tu te loignes des chemins de l'humilité nécessaire pour acquérir le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance. Et te voilà dépouillé de la seule âme qui peut te libérer de tes chaînes. Maman Africa. Parcelle, Sarcelle, même donne. Poissa, quartier nord, même donne. Trèche-Town, Trècheville, même donne. Jeune du ghetto, réapproprie-toi l'éducation et marche le chemin de ta liberté. Parce que seul toi pourras te libérer de tes chaînes. Bronx, Watts, même combat. Gorée, Tartiré, même combat. Soweto, Bobo Hill, même combat. Yopougon, Dillon, même combat. African diaspora, même combat. Mama Africa.
Oh, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa. Bonjour le soleil, bonjour Radio Galère, bonjour chers auditeurs, auditrices, chers invités. Chaque dimanche une surprise. La diaspora des émittants, la conscience génération. Grande passerelle du continent, berceau de l'humanité, et Dom-Tom aux Antilles. Radio Galère, www.radiogalère.org. Attendons bien sûr les numéros fétiches, les numéros opérationnels, nous aurons l'occasion de vous les présenter. Quant à nous, chaque dimanche avec mes invités, 06 44 94 56 31 via WhatsApp pour animer, voire débattre. Notre chroniqueur, je dirais peut-être pas un théologien, Aquila, pour les intimes, Bruno. Un clin d'œil pour notre maestro, donc Frédéric. On a un invité aujourd'hui, tout neuf, flambant neuf, donc Christian. Un sourire qui promet. C'est avec Ali Fakatouri que nous allons essayer de donner la parole à notre mon cher Bruno, qui est encore en forme, en force vive de la voix qui perce, que berce l'espoir. Bonjour Bruno.
Bonjour, bonjour. Écoutez, super, il commence à pleuvoir à Marseille, mais le soleil est dans le cœur de tout le monde.
On ne peut pas se plaindre, hein, n'est-ce pas, Marseille?
On ne se plaint pas, on se plaint pas.
Hein, avec franchement le climat que nous avons la douceur, nous avons le soleil pétillant, et ça n'a jamais été grave quand il pleut, ça ne peut que faire du bien.
C'est ça, tout à fait. Et donc aujourd'hui, j'ai ramené un ami, Christian, qui a une petites histoires sur Marseille à nous conter, parce que comme l'émission c'est rêver, eh bien voilà, on va rêver, on va apprendre des petites choses que les gens ne connaissent pas, parce que Marseille, effectivement, c'est soleil, effectivement, c'est le passif, mais ce n'est pas que ça. Donc, Christian.
C'est les rencontres aussi.
C'est les rencontres, et voilà. Donc, chaque semaine, on va rencontrer du monde. Je vais vous ramener des personnes que je connais, qui ont des choses à dire, des petites choses, parce que...
Des petites choses qui peuvent être des grandes choses.
Qui peuvent faire des grands... Comme les rivières.
Il n'y a jamais de problème sans une réponse à ça.
C'est ça, tout à fait. Donc, bah, voilà, Christian, écoute, je te laisse dire un petit bonjour, et puis après, on va commencer.
Bonjour, Christian.
Bonjour à tous.
Eh bien, je pense que vous connaissez bien Radio Galère. Vous avez entendu parler de Radio Galère.
Oui, j'ai déjà passé avec Amar, parce que j'ai eu la chance de faire un séjour en Algérie.
D'accord.
Et il m'avait demandé mon ressenti de français, enfin français marseillais, ouais. En Algérie, ouais. Surtout à Tizi Ouzou, la Kabylie de son cœur,
oui,
à Amar,
hein. Tout à fait.
Et donc il avait adoré mon ressenti, mon regard.
Ouais. Ouais, tout à fait. Eh ben, c'est une passion que nous allons tous retrouver. Alors je pense que votre passage à Radio Galère constitue quoi pour les auditeurs et auditrices? Vous avez une très belle voix d'abord.
Oui, merci mon cher. Moi, ce serait surtout, vous voyez, il y a un temps un peu pluvieux, hein, comme dit nos chers Bruno, mais à Marseille, on a le soleil dans le cœur, donc ça ne change pas. Et je voudrais parler un peu de tout autour du Vieux-Port. Il y a une histoire très riche, histoire avec la grande histoire et la petite histoire, c'est ce qui est le plus important. Et malheureusement, elle est très peu connue des touristes, même de certains Marseillais. Alors que c'est toute cette histoire autour du Vieux-Port qui a créé cette ville, et tout part de là.
Osons en parler. Voilà, alors on t'écoute. Quelle est la petite histoire,
exemple,
jusqu'à devenir la grande?
La petite histoire, vous appelez Radio Galère, il faut savoir que...
Nous ramons quand au courant.
Oui, derrière Étienne Dorve, là, vous aviez une vingtaine de galères, hein, du roi. Donc il y avait des semi-prisonniers et des prisonniers enchaînés. Tout ça découle de beaucoup de choses. Après, on parle de la Canebière. La Canebière, c'était la canne de ces semi-prisonniers. Ils tressaient la canne pour faire des cordages pour les bateaux, vous voyez. Et trois fois par année ou deux fois par année, ces galères sortaient de Tiendorf. Et malheureusement, les prisonniers avaient des conditions hygiéniques terribles. Et les Marseillais se mettaient un mouchoir avec du vinaigre pour ne pas sentir l'odeur. Mais c'était les galères royales. Donc, c'était un moment riche et un peu douloureux de notre passé. Et de l'autre côté, si vous voulez, vous avez ce qu'on appelle l'avenue de la Corse. Et là, on faisait du savon. Et donc, c'est des prisonniers turcs qui venaient du Moyen-Orient qui ont amené à faire...
Le savoir-faire, le
savon, le fameux savon d'Alep, et qui a fait après le savon à l'huile d'olive, tout ça. Donc, en fait, dès le départ, Marseille a été un brassage de culture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tous cette culture très riche. Mais ça existe depuis, dès le départ, c'était un multipote. Voilà.
Vous êtes en train de nous remonter vraiment le temps de Marseille, puisque nous ne l'avons peut-être pas vécu, nous on l'a vécu, mais de nous revivre là-dedans, je crois que ça plairait à tous ceux qui sont amoureux de cette cité. Et je laisse le soin de Bruno de poser des questions dont vous avez beaucoup échangé.
Bien sûr, bien sûr. Alors, dis-moi, Christian, est-ce qu'il y a un quartier où il y a le plus de choses à raconter ?
Ah, ben c'est le Panier. Malheureusement, il est très, très peu mis en avant. Le problème de Marseille, dans toutes les villes en France, vous avez toujours un panneau ici, vivait l'écrivain untel, machin. Marseille, comme c'est une multipote d'histoire sur l'histoire, a toujours enseveli son passé. Alors que les premiers arrivants de Marseille, les Phocéens, c'est la place des Moulins. Donc il y avait un théâtre grec. Et malheureusement, les quelques vestiges qui restaient ont été volés parce que ça n'a pas été protégé. Vous avez une crypte rue Beauregard du 3e siècle où il y avait encore des premières messes des premiers chrétiens à Marseille. Enfin, vous allez de l'autre côté la grande rue du Lidl, il y a l'escalier le plus vieux de Marseille qui date du 4e siècle, etc. Pourquoi je parle d'histoire ? C'est pas pour embêter les gens, hein. C'est parce que quand on connaît son histoire, on comprend sa ville. On part d'un endroit et on finit un endroit. Et quand on a un regard sur le passé, on peut avoir un regard sur le futur, pour moi. Hein. C'est-à-dire que...
Si on sait d'où nous venons, on saura d'où on va.
Voilà. Oui. On a une direction. Donc, le Panier est un lieu mythique où il y a beaucoup de choses. J'ai eu la chance d'aller dans un bar qui est toujours ouvert, qui s'appelle la Caravelle sur le vieux port, qui est quand même quelque chose qui est ancien et qui a été préservé par rapport à ce qui s'est passé pendant la guerre. Tu as tu peux un peu expliquer ce qui s'est passé dans ce quartier pendant la guerre ?
Alors, ce côté du vieux port, côté droit, côté de la mairie, c'était malheureusement, c'était il faut dire le mot, les bordels. Voilà. Et en fait, dès 1930, il y a eu un plan des bourgeois de Marseille, parce qu'il y avait encore des grandes compagnies maritimes, il y avait des bourgeois, tout ça. Et ils avaient honte de ce quartier, parce que ce quartier du Panier, c'était les bandits à l'époque. Les bordels et c'était un peu la pègre et tout ça, et pour eux c'est une plaie sur la ville. Et donc dès 1933 il y a eu un plan pour détruire ce quartier. Bien sûr, comme on est en France, ils n'ont pas osé le mettre en exergue, le faire. Il y avait un maire qui s'appelait Henri Tasso à l'époque, qui était empoisonné, hein, faut le savoir. Et ce plan, il est dans les archives de Lyon, parce que Marseille a honte de cette partie de l'histoire, et ce plan a été mis effectivement par les Allemands, mais ça quand même c'est les Français, les bourgeois français qui ont voulu détruire tout le Panier, toutes ces rues La Loge, etc., parce que pour eux c'était une plaie, c'était quelque chose qui ne devait plus être, quoi.
Moi je suis pas de Marseille, j'y habite depuis 30 ans, je viens de Dunkerque, et moi ce qui m'a surpris, alors je ne sais pas s'il y a quelque chose, mais c'est qu'on parle beaucoup du vieux port, des pêcheurs, mais moi, quand je suis arrivé ici, moi j'avais l'habitude d'aller dans les bistrots de marins où on parlait de la mer, qu'on parlait des tempêtes, etc. Et à Marseille, j'ai pas trouvé ces marins. Est-ce qu'il y a un endroit où on les trouve ?
En fait, il y a eu quand tu es arrivé il y a 30 ans, on a enlevé la criée. Donc la criée aux poissons, parce que c'était un problème d'hygiène. Et après, on a déplacé ces marins à Somaty, donc à l'Estac. Donc en fait, cette population qui était d'origine italienne, principalement de pêcheurs, Les peu qui restaient ont été mis à part de la ville. On n'en voulait plus. Hein. On voulait des yachts, on voulait des gens avec de l'argent et tout ça. Et tout ce folklore marseillais a disparu parce que c'était une volonté, encore une fois, politique d'enlever ce qu'on appelait vulgairement la cagole. Hein,
cagole de Marseille.
Oui, et vous savez pourquoi, cher Akila, la cagole.
Donc, ah non. Alors...
Donc la cagole, c'était une femme courageuse qui avait peut-être 7 ou 6 enfants de l'époque, hein, je parle 1920, 1907, tout ça. Et au Vieux-Port, c'est pas très grand, elle se battait pour vendre du poisson. Et quand elle vendait pas assez, malheureusement, pour nourrir ses enfants, elle était obligée de se prostituer. Donc la cagole marseillaise, c'est...
Une poissonnière qui se prostitue.
Pour faire manger ses enfants, parce que malheureusement, il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque, et les temps étaient durs.
Et ce qui se passe d'ailleurs dans beaucoup de pays encore, où les femmes sont obligées de se prostituer pour pouvoir finir le mois. C'est vraiment dommage. Et alors, donc, est-ce qu'il y a eu des personnages emblématiques qui sont venus à Marseille?
Oh oui. Des centaines de milliers, mais le panier, ça a toujours été le repère des bandits. Hein. Donc, ces familles, alors c'est des familles italiennes qui viennent d'une plage qui s'appelle Sperlonga, à 40 km de Rome. Ils sont arrivés à 400 personnes. Et moi, quand j'ai connu Marseille, je ne suis pas de Marseille, mais je venais en vacances et tout, j'ai connu encore avec les filets le long du port, j'ai connu les vieilles familles. Et quand on rentrait dans le panier, il faut les montrer pâtre blanche pour pouvoir visiter. On ne rentrait pas comme ça. C'est une tenue. Voilà. Hein, donc, on ne va pas dire les noms. Mais bon, Francis Lebel, etc.
C'est tenu par la mafia. Quoi.
Oui. Mais c'était
la mafia économique.
Oui, mais c'était un Marseille complètement différent. Donc, c'était tout en sens unique. Il y avait encore de l'autre côté Tiendorf, il y avait ce fameux parking à hauteur où ils ont tourné des films américains, tout ça, avec Gene Hackman, tout ça. Il y avait des bars encore avec les macros, avec le nœud papillon. Enfin, moi, j'ai connu, j'avais 6 ans ou 7 ans. C'était impressionnant, ce Marseille. Et vous aviez les filets qui séchaient l'après-midi le long du port. Il n'y avait pas de barrière. Il n'y avait pas les pannes, là, comme ils disaient, tout ça. Et les vieux, ils réparaient les filets. Enfin, c'était vraiment le Marseille vivant.
Nous allons revenir dans quelques instants. Pour rappeler déjà, 04 91 08 28 10, je vous rappelle toujours le numéro de téléphone, mais pour le moment encore les numéros ne sont pas opérationnels. Je vous invite toutefois pour connaître l'histoire de Marseille, sa cette beau cité, hein, donc cité phocéenne, et on parlera bien sûr de la vieille charité, qui est aussi un lieu de pèlerinage, un lieu de rencontre, un lieu de documentaire, un lieu historique, et nous rappellera bien sûr les grands quartiers de Marseille. Et pour parler du sport, vivement le sport, je vous rappelle donc dimanche dernier, donc c'était aussi à Montpellier qu'il y a eu lieu ce grand tournoi interrégional, et puis le lundi, jour de Pâques, c'était aussi à Lyon. Voilà, et donc en souhaitant vivement donc, le sport pour tous ceux qui aiment le sport, et puis voilà, c'est aussi la santé. Donc nous, notre rendez-vous, bien sûr, c'est le 9 mai aussi à Agadir, au Maroc, donc un tournoi international. Et pour rejoindre aussi le calendrier complet de la CAN 2025 au Maroc avec les dates précises des matchs, je vous rappelle donc la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'est organisée au Maroc et on trouvera bien sûr le lion Atlas. Et en tout cas, la seule chose, c'est que les animaux, le mâle animal, c'est l'homme. Parce qu'on n'a jamais invité le lion d'Atlas d'aller déclarer la guerre au lion Teranga du Sénégal et surtout le lion indomptable du Cameroun. Alors, c'est 21 décembre donc 2025. Au 18 janvier 2026, le calendrier complet est tombé ce vendredi 31 janvier, qui succédera donc à la Côte d'Ivoire et tirée en février 2024. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations est organisée au Maroc le 21 décembre jusqu'au 18 janvier 2026, à moins de 11 mois du match d'ouverture. La Confédération africaine de football, la CAF, a dévoilé donc le calendrier complet de la compétition ce vendredi 31 janvier. Tous les groupes de la place du poule sont à retrouver ici. Les Lions d'Atlas donc, seront les favoris, bien entendu, et à domicile. joueront le match d'ouverture contre les Comores le 21 décembre donc à Rabat, en invitant bien sûr la communauté comorienne de la cité, puisque l'équipe nationale, presque les 90% sont de la cité, consulat de Marseille. Donc décembre à Rabat, la grande affiche du premier tour opposera la Côte d'Ivoire tenant du titre et le Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, Sénégal, RDC, Congo, Nigeria, Tunisie et Égypte et Afrique du Sud sont les autres chocs du premier tour. Alors, 6 villes et 9 stades accueilleront donc la compétition. La finale se tiendra au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat, d'une capacité de 69 500 places. Voilà, le calendrier donc complet de la CAN, phase du groupe. Le 21 décembre, vous avez Maroc-Comores, groupe A. 22 décembre, le Mali-Zambie, groupe A. Vous avez Égypte-Zimbabwe, groupe B. Vous avez Afrique du Sud-Angola, groupe B. Le 23 décembre, vous aurez Nigeria-Tanzanie, groupe C. Tunisie-Ouganda, groupe C. Sénégal-Botswana, groupe D. Et RDC, Congo, Bénin, groupe D. Le 24 décembre, Algérie, Soudan, groupe E. Burkina Faso, Guinée équatoriale, groupe E. Côte d'Ivoire, Mozambique, groupe F. Cameroun, Gabon, groupe F, les deux cousins. 26 décembre, donc Maroc, Mali, groupe A. Zambie, Comores, groupe A. Égypte, Zimbabwe, groupe B. 27 décembre, vous avez Nigeria, Tunisie, le groupe C, Ouganda, Tanzanie, le groupe C, RDC, Congo, Sénégal, le groupe D, Bénin, Botswana, le groupe D, et le 28 décembre, vous avez l'Algérie, Burkina Faso, le groupe E, et Guinée équatoriale, Soudan, le groupe E, Cameroun, Côte d'Ivoire, le groupe F, Gabon, Mozambique, le groupe F, 29 décembre, Maroc, Zambie, le groupe A. Vous avez le Comores, le Mali, le groupe A, Égypte, Angola, le groupe B, Zimbabwe, Afrique du Sud, le groupe B. Le 30 décembre, vous avez Nigeria, Ouganda, Tanzanie, Tunisie, Botswana, RDC, Congo, Bénin, Sénégal. Le 31 décembre, vous avez la Guinée équatoriale, Algérie, Burkina Faso, Soudan, et Cameroun, Mozambique, et Côte d'Ivoire, Gabon. Et huitième de finale, vous aurez les premiers groupes du D du troisième groupe rencontreront bien sûr le deuxième groupe du C et le 4 janvier, deux groupes aussi, deuxième groupe de F, le groupe A, le troisième groupe de C, etc. etc. Donc en tout cas, on vous invite entre-temps de se retrouver donc devant les écrans et que le meilleur de cette championnat, c'est à bien sûr nous faire donner un peu un havre de paix, parce que l'Afrique, elle est complètement déstabilisée. Avec quand on te terrorise, tu deviens terroriste. Et aujourd'hui, si on veut la paix, il est dans nos cœurs. Il faut cette volonté politique. Et Bruno, il est un de ces pèlerins qui parle beaucoup de la paix et que la paix nous. Dans l'amour, dans les amitiés, il n'y a que la paix qu'on peut gagner. Et donc, amicalement, vote avant tout, vous satisfaire. Voilà. Donc, nous allons faire une pause musicale pour, bien sûr, mouvementer un peu Christian, son élan. Et puis, nous revenons dans quelques instants. Je vous rappelle donc que vous n'avez pas le numéro de standard. Et depuis, on est victime de ce succès, Radio Galère. Alors, le numéro WhatsApp, c'est 06 44 94 56 31. Si vous êtes encore amoureux, passionné de cette belle ville, la première capitale, ancienne capitale française, même européenne, Marseille, bon vivre ensemble. Eh bien, c'est avec vous, on peut débattre un peu éventuellement, écouter la voix de Christian. Je crois qu'il a les réponses, pas presque à tout, mais au moins si c'est quelqu'un, il veut que vous les accompagniez pour chérir Love in Marseille. Voilà, et amicalement votre, avant tout, vous satisfaire, sans plus tarder, chanson, chanson. Et depuis Cannes, une grande pensée à notre chère ambassadrice Aïda Diop. Dida qui dédie ses chansons à mamie, à notre maman, c'est la mère de ma mère, et comme l'enfant naît avant sa mère, donc pour Ouganda, et pour Tanzanie, pour Kenya, donc qui se ressemble, se rassemble. De Ouganda, de Kenya, de Tanzanie. C'est avec l'autocompositrice Jedida. Bonjour le Grand Var de Toulon, Medoune et sa grande famille. Pays d'Aix, pays du soleil, j'ai nommé Biran Djoun. Notre correspondant si loin, si proche de nous à Dakar, Bati Diagne. Comme il disait Feu Mami Dibango, l'Afrique Sanfique, sacré nom d'Afrique. Eh oui, Jedida, merci pour dédier à nos mères, à ses mères, et au-delà, donc l'étincelle regard. Radio Galère, la radio qui rompt à contre-courant. Eh oui, 06 44 94 56, je vous rappelle aussi, gratuit. Voilà, c'est gratuit et vous faites décoller. L'Afrique a ses raisons et l'Afrique frémit et danse. Bruno.
Eh oui.
Et c'est beau de parler de Marseille.
Tout à fait.
Mais Vieille Charité, ça devient un lieu de pèlerinage.
Tout à fait. Mais avant, je voulais aussi dire un petit coucou à l'association ADPEC, avec qui j'étais hier, qui est une association comorienne, qui est en train de travailler sur le fait de préparer le... Comment on va dire ? De préparer tout ce qui est recyclage aux Comores,
parce que les citoyens se relèvent, et je crois qu'il y a de quoi. L'État ne peut pas tout faire.
Ce qu'il faut, c'est des bonnes volontés. Et hier, j'ai rencontré vraiment énormément de monde. Et aussi, pour faire la liaison avec tout le programme que tu as annoncé, rappelons qu'en 2027, il y a les Jeux des îles de l'océan Indien qui vont se dérouler. Et notre association, parce que nous faisons partie d'une association qui s'appelle Tradition et Culture du Monde.
Rapproche-toi au micro.
Comment ? Ah oui.
Ouais, ramène le micro vers toi.
Voilà. Ouais. Donc, nous faisons partie d'une association qui s'appelle Tradition et Culture du Monde, Christian et moi. Et donc, nous allons travailler également sur ce problème de pollution que crée l'homme au détriment de la nature. Et voilà. Donc, je voulais leur dire un petit coucou, un petit bonjour, parce qu'ils nous ont accueillis hier vraiment de façon très, très agréable. Et ce sont des gens qui vraiment se préoccupent du futur, parce que le futur, c'est pour nous, mais c'est surtout pour nos enfants. C'est eux qui vont hériter de ce qu'on leur laisse.
Tous les invite, c'est membres bureau. Mieux vaut prévoir que guérir.
Tout à fait. Et surtout, agir. Donc, volontiers, je vais les inviter. Et je sais que chez toi, ils seront les bienvenus.
Tout à fait.
Voilà. Alors, effectivement, avant de parler de la Vieille Charité, on pourrait parler aussi des légendes, des choses que l'on... Sur Marseille, il y a des bruits qui courent, n'est-ce pas ?
En fait, le Marseillais, c'est les Galéjades. Hein, donc, ça s'est perdu, le parler marseillais, malheureusement. Hein, mais il y a une expression que je trouvais fabuleuse, moi qui viens du Jura d'origine, je suis arrivé il y a 40 ans, c'était le stockfish. Alors, il faut expliquer à nos spectateurs, à nos auditeurs, on va dire. À l'époque, donc, le long du port, il y avait plein de tonneaux avec de l'huile, et dedans, il y avait des harengs nettoyés, ou des sardines qui séchaient au soleil, et celles-ci avec de la saumure étaient envoyées en Angleterre parce que les Anglais raffolaient de nos anchois et la mer était riche à l'époque, malheureusement. Et donc, quand on voyait une fille qui était filiforme, on disait « V, regarde, en vieux provençal, V, un stock à fiche.
»
Mais après, je voulais parler d'un truc qui est un peu rigolo, c'est quand même la sardine qui a bouché le vieux port, la fameuse sardine. Alors, il faut savoir qu'il y a trois faits historiques dedans. La vraie histoire, c'est que le roi d'Aragon est venu à Marseille en 1500 et quelques. Malheureusement, il a massacré la ville, il a brûlé, etc. Et chaque port français avait une grosse chaîne qui fermait la nuit pour empêcher les bateaux de rentrer et de sortir. Et cette chaîne a été volée à Marseille et on trouve quelques morceaux encore dans la cathédrale de Valence.
C'est pour ça dire. Qu'on nous reproche beaucoup les Marseillais.
Voilà. Mais ensuite, il y a deux faits historiques encore qui se rejoignent. Il y avait un monsieur qui était l'intendant de Louis XIV qui s'appelait Monsieur de Sartines. Et vous aviez des comptoirs français en Inde. Vous voyez comme quoi Marseille a voyagé partout dans le monde. Et donc, il y avait des draps. Alors, ce monsieur de Sartines, il a affrété des bateaux. Alors, vous vous rendez compte, l'Inde à l'époque et Marseille, ça prenait 6 mois. Hein. C'était un voyage assez harassant. Les pauvres marins, après 6 mois de galère, ils arrivent en vue de Marseille, tempête. Ce qui n'arrive pas souvent. Vous avez un phare qui s'appelle le Planier. Ils ont tapé avec l'avant du bateau là. Et bon an, mal an, ils sont arrivés sur le port et ils se sont couchés. Il y a eu plus de 30 morts. Et donc, c'est là que les Marseillais ont dit « Vé, la sardine qui a bouché le vieux port ». En fait, c'est le monsieur de Sartines. Mmh. Et ensuite, en 1933, il y avait un bateau rempli de drogue déjà à l'époque. Et au Fort Saint-Jean, il y avait des canons de la douane. Ils ont tiré, ils ont coulé un bateau qui s'appelait aussi Monsieur de Sartines. Mmh. Et déjà en 1933, il y avait déjà un trafic de drogue. Donc Marseille a toujours été une ville riche. Mmh. Mais quand les gens ils disent la sardine a bouché le vieux port, ils ne savent pas toujours...
Dans la signification.
Voilà.
Ça ne va pas le traduire. Eh bien, en tout cas, bon vivre à Marseille. Et Vince, Aquila.
Alors, tout le monde parle du pastis à Marseille, mais en réalité...
Non. Alors, le pastis, il a été créé en Ardèche par un docteur. Il faut le savoir qui a fait ça, parce qu'à l'époque, un médecin, parce qu'à l'époque, un pharmacien plutôt, excusez-moi, parce qu'à l'époque, il faisait des mélanges avec les herbes et tout ça. Et les premières usines de pastis sont à Avignon, en 1923.
Beaucluse.
Pourquoi ? Parce que ça date de la fameuse... comment s'appelait cette plante, là, tu sais
L'absinthe.
L'absinthe est interdite en France en 1914 parce que ça faisait beaucoup de dégâts dans la population, ça rendait fou. Et les usines Pernod d'absinthe ont été fermées. Elles se sont installées à Avignon, rue du Vieux-Cestier, hein, il y a des roues. Et le pastis a commencé à être créé là. Après, il y a plusieurs marques. Mais là, je parle de la marque Pernod. Voilà.
Et si j'ai bien compris, pastis veut dire mélange.
Voilà.
C'est un mélange de plantes.
Et la différence est entre la badiane et une marque avait plus de la badiane. Donc, c'est une plante qui vient d'Asie. Et l'autre, c'est l'anis. C'était la recette, en fait, originelle. Voilà, il vient quand même de l'Ardèche.
En tout cas, quand on réfléchit, celui qui l'a inventé, encore, il faut être un docteur pour permettre aussi la population de s'aventurer sur l'alcool qui ne fait pas d'amis, qui ne fait que des dégâts.
Oui. Mais le coca est inventé par un Français, par exemple, vous savez.
Donc, ça, les Français ignorent, justement.
Alors, c'est encore un pharmacien alsacien qui était expatrié dans l'Ouest américain, quand il y avait la grande ruée vers l'or et tout ça. Et à l'époque, ils n'avaient pas de médicaments, surtout les conditions étaient très difficiles. Et lui, il rajoutait dans son mélange gazeux de la quinine, donc un antiseptique. Et le coca est né d'un Français, mais il n'a pas su protéger ses brevets. Et après, la maison coca est née, etc. Mais en France, on a créé quand même pas mal de choses. Et dans la région, on est pas mal. Hein.
Mais parce qu'on ne les garde pas, ces cerveaux, justement. Le problème, c'est que c'est l'argent. L'argent appelle l'argent. C'est des Français qui veulent de l'argent et qui veulent au-delà de l'argent. Et l'Amérique les propose et puis ils sont les bienvenus. Et puisqu'aujourd'hui, on est en train de, depuis le Covid, qui est un arnaque du siècle, et on est en train de restaurer les usines de mieux vivre chez soi, et produire chez soi. Et l'Europe, il est beaucoup en retard à ce niveau-là, quand même.
Et donc, donc, avant le pastis, il y avait le rhum à Marseille. Ce que j'ai appris, il y a une fabrique de rhum, il y a une marque marseillaise de rhum. Donc, effectivement, c'est le pastis aujourd'hui. Mais avant, il faut savoir qu'on buvait vraiment beaucoup de rhum. C'était le rhum, la boisson de Marseille.
Alors, la première usine était à côté de la baie Saint-Victor. Et évidemment, comme les marins marseillais voyageaient partout dans le monde, eh bien, ils ramenaient des produits de toutes ces îles, le rhum bien sûr, la canne à sucre, la Martinique, la Guadeloupe, les Saintes, tout ça, parce que voilà, pourquoi Marseille a toujours été mélangée, parce qu'il y avait toute cette richesse. Par exemple, vous avez le bleu de Chine, vous savez, mon cher ami, le bleu de Chine, c'est des marins marseillais qui sont partis avec l'armée française sur le Yangtze, avec l'armée britannique, et qui ont attaqué l'armée chinoise. Et donc, ces marins ont vu les Chinois habillés avec ces petits costumes, tout ça. Et ils ont ramené ce bleu de Chine. Et de là, ça s'est vendu dans les échoppes et tout. C'est devenu commun pour le public. Mais s'ils n'avaient pas été en Chine, ils n'auraient pas ramené tout ça.
Oui, parce qu'on voit la rue dominicaine, presque tous les magasins, à l'époque, que ce soit les petits dockers, tout ça, ils étaient en bleu. Et même, dis-moi, c'est les boutons, c'était carrément le mode chinois.
Comme le jean est français. Bon, c'est des teinturiers de Nîmes qui envoyaient tous ces grands draps aux États-Unis. Et quand il y a eu la guerre de sécession, je crois, Wrangler, enfin, je ne sais plus lequel, là, les deux frères, là, ils ont vu ces tentes de soldats et ils ont l'idée de découper, de faire des pantalons, parce qu'il n'y avait pas. Et le jean est né, le bleu de Nîmes. Donc, vous voyez, on a créé beaucoup de choses dans la région, mais on n'a pas su conserver.
Plus les protéger.
Le protéger.
Voilà. Ben écoute, on reviendra à ça tout à l'heure, Bruno. Et en attendant, donc, il y a un jeune Sénégalais aussi en Suisse qui a développé une méthode. En espérant, on l'encouragera bien sûr pour qu'il puisse mettre à jour ce projet. Et puis voilà, jeune qu'il est, ben c'est le talent qui paye.
boma bediul khalatu malabay amala misona tudu malambay oy gañ la taxul nga ba toñ la taxul nga may rechoy salaw yan say nga mer sama njambar ci yow mi la wekkoy dotuma wiri wiri jarin dari li momum lay jël dotuma yoni ken ci sama waji man mi ma koy jël Fajar fek nga ten jayoy Bale kar ki rakhasinam Niki bobu dam ngay wajal Dunda mata nyanoy Ndate gende dafa kuy jut Ndak finaloma Xebo li malay jok Leb lo ma nyan dinalamay Dotu ma def len luy meti sama daw si Nak sama daw le nga don lera sama yone Dotu ma nangu min def ji dak sama di kak yaw Ndak yala mo def ki nyun loluina Gagne la taxul nga ba Togn la taxul nga may rechoy Salaw yen say nga mer Sama nyambar ki yun la wekoy Dotu ma wiri wiri jarin dari li momom lay jele Dotu ma yun mi ken ci sama waji man mi ma koy jele
Quand la génération Les Étoiles se mettent sur scène comme le concours de Wally Sek, Wally Balakosek. 06 44 94 56 31. Nous allons avec une petite chanson pour vous toujours remonter le temps avec l'histoire de parler de Marseille. Alors, sans plus tarder.
Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon.
me mets les ballons. Hey, hey. Tu vas faire tes valises et quitter la maison.
Radio Galère, Radio Galère, la radio qui rend tout courant.
Pas de paradis, essaie d'imaginer aucun enfer, aucun cri, juste le ciel étoilé. Imagine-toi tous ces gens qui vivraient au présent. Si on brisait les frontières, ce n'est pas si dur à faire. Mourir n'aurait plus de raison. Aucune religion. Imagine-toi tous ces gens qui vivraient juste en paix. Tu peux dire que je suis rêveuse.
Une chanson que toute l'équipe le dédie à Mathilde Ramos, alias Mathilde Gomis.
J'espère qu'un jour tu y croiras et que le monde enfin s'unira. Une terre sans possession, c'est dur d'imaginer.
On va revenir pour notre doyen qui a 105 ans, François, pour faire nos sincères condoléances à toute la communauté catholique partout dans le monde. Et on sait que c'est le pape des pauvres, mais c'est le pape du cœur, c'est le pape. Il sait qu'on est guerre éternelle, sa mission, il l'a accomplie. Et donc, paix, qu'il repose en paix, donc le pape François. Et puis, pour revenir à vous, nos chers chrétiens, qui éventuellement, votre religion, notre religion. Voilà, donc c'est notre pape, le pape international, le pape des papes, pape de tous les peuples et opprimés, de tous les peuples des pauvres. C'est le pape reconnu et c'est le pape qui s'en va sobrièrement. Voilà, simple. Simple comme tout le monde. Voilà.
Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai rencontré Son Excellence Monseigneur
Alvire,
lundi soir, parce qu'il y avait la messe à Marseille, à la cathédrale, et j'ai évoqué avec lui quelque chose que nous allons mettre en place avec tous les chrétiens, mais pas que, avec toutes les religions. Cet été, on va faire un grand concert pour la paix. Voilà, donc tous les artistes qui veulent participer, n'hésitent pas à contacter Radio Galère de façon à ce qu'on puisse monter quelque chose de très intéressant, de participatif, d'inclusif, de façon à ce qu'on puisse enfin faire rayonner un peu de lumière, de paix sur le monde. Voilà, et donc ça c'était la transition par rapport à cette chanson de John Lennon qui est quand même magnifique. Voilà, je pense qu'on va la passer tous les dimanches quand on va faire l'émission. Ça va devenir l'hymne de l'émission ici. Et puis, comment on veut rêver d'un autre monde, c'est le thème de l'émission. Alors, on a parlé de Pastis et c'est vrai que ça fait rêver. Ça fait rêver d'une façon un petit peu, chimiques, mais enfin, c'est pas chimique puisque ce sont des plantes, mais enfin ça fait rêver. Et alors Christian, est-ce que tu sais pourquoi on parle du fada de Marseille?
Le fada, c'est le fou, mais on peut dire une petite histoire rigolote par rapport à la pétanque. Parce que la pétanque, c'est un jeu provençal. Hein. Donc la provençale, c'était trois pas, c'est plus de 10 mètres ou 11 mètres, donc c'est très physique. Et donc c'est un docteur de la Ciotat, en 1907, qui était pétri de varices et de courbatures. Et il a eu marre de faire trois pas, enfin, il n'arrivait plus physiquement, donc il a fait un rond. Il a pris ses boules et il les a jetées comme ça. Donc, comme à l'époque, on parlait provençal plus que français, c'est les pieds tanqués. Donc, les pieds tanqués, donc est née la pétanque. Et les mecs ont dit « Oh, V, le fada !» Et en fait, ce monsieur, ben voilà, il a créé la pétanque suite à un problème physique. Et c'est encore un provençal, donc un régional, qui a créé un jeu qui est connu mondialement maintenant.
Et moi, j'ai entendu dire que le fada, dans le temps, au jour d'aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est fada, on dit que c'est un fou. Mais dans le temps, il y a pas mal d'années, quand on aimait bien avoir un fada dans un bar parce que c'était quelqu'un qui faisait rigoler, c'était quelqu'un qui était le bienvenu. Et hélas, cette expression est partie en dérision, puisque maintenant, c'est plutôt quelqu'un qui est moins bien accueilli. Et pourtant, c'était bien d'avoir un fada. Quand on a un fada dans la bande, au moins, on rigole, on passe des bons moments et on peut refaire le monde. Qui était aussi un des buts des bars, c'était de refaire le monde. Encore aujourd'hui, on refait le monde. Maintenant, on va le refaire plus sérieux parce que le monde est parti en dérive et il va falloir qu'on réfléchisse pour refaire un monde plus solidaire, plus respectueux et plus responsable. Eh bien, écoute, maintenant, on a parlé de boire. Et si on parlait de manger?
Oui, ben, évidemment, Marseille, la bouille, il y a baisse. Donc, quand il y avait ces fameuses cagoles, ces pauvres femmes qui devaient nourrir 8-10 enfants avec peu de moyens, ben, les pêcheurs, à l'époque, heureusement, avaient beaucoup de poissons. Et tout ce qu'ils n'avaient pas vendu après le marché, ben, ils faisaient bouillir dans une marmite. Et d'où est tiré le nom de la recette, bouillabaisse. Et maintenant, quand on voit qu'il faut payer 80, 100, jusqu'à 200 euros un plat qui est un plat de pauvre pour nourrir des grandes familles.
Comme chez nous, le soupe candier qui était un plat pauvre des paysans, finalement est devenu le plat le plus riche. Il faut être riche et pas accès à ce genre de plat qui est totalement riche, des sous-régions.
Voilà, donc mon cher Mamadou, tu vois, on transforme les choses, mais pas toujours dans le bon sens. Mais c'est pour ça que je parle d'histoire. Des fois, ça peut l'air rébarbatif, mais quand on sait d'où ça part et comme c'est devenu le monde, d'un plein de pauvres qui coûtait rien du tout, et maintenant, c'est des sommes vraiment importantes, alors qu'à l'époque, ça servait à nourrir 8-10 enfants qui avaient faim. Hein.
Tout à fait. Pour revenir justement le message de Frédéric, quand aujourd'hui on déclare la guerre ou on annonce la guerre, la plupart ces politiques, ils n'amènent pas leurs enfants au front. Il y a une chanson qui va vous rejoindre après et je crois que je vais mettre la chanson et vous me direz quelle situation dramatique pour cultiver la paix finalement, qu'est-ce qu'il faut comme résonance, qu'est-ce qu'il faut vraiment comme message. Et la plupart, malheureusement, ceux qui détiennent et qui veulent la guerre, et leurs enfants ne vont pas au front. Et pour faire quoi, finalement? Des mères meurtries, des mères qui sont là, qui deviennent impuissantes et qui ne peuvent pas aussi garder leurs propres enfants chez soi, à la maison, les voir grandir. Et des sacrifices inutiles. Et je pense que la guerre n'apporte que des ennuis et de la haine. Et avec vous, je vais faire passer cette chanson. Je ne sais pas comment il a fait pour trouver cette chanson, mais c'est profond. Puisqu'il y a une mère africaine qui a son enfant, dont il allait, mais il lui donne des conseils. Et vous avez l'armée derrière qui est en train de piller complètement toutes les cases, tous les villages. Et sur quoi? Et ces gens-là, pourquoi faire? En deux mots. Voilà. Je vais juste partager avec vous.
Écoute ma voix, mon souffle fait le coup. Mon cœur s'effondre chaque jour. Ne prends pas ce fusil, ne pars pas. Ta lumière doit rester ici-bas. Les tambours grondent sous la lune, mais ton départ serait une infortune.
ton courage brûle dans tes veines. Mais ta vie vaut plus que la haine. La gloire t'appelle dans le vent, mais elle dévore les vivants. Les héros meurent dans le silence. Ils laissent les mers sans défense. Ne pars pas, Samadou, reste ici. J'ai besoin de toi dans cette vie. Ne pars pas, Samacharine, ne t'éloigne. Je prie pour que ton âme saigne. Les fusils percent les entrailles. Les pompes sèment les funérailles. Nos cris montent dans les étoiles. Mais personne ne brise l'étoile qui plantera le mille demain. Qui portera notre destin. Les femmes chantent pour ne pas pleurer. Elles espèrent sans jamais cesser. Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah.
Oh yeah, oh yeah.
Sous Marshall, puis la femme est une personne.
Boudem, boudem,
papa.
Dina la si, dina la chifrantico. Magifirek, magitsisayala.
Je suis là près de toi.
Les vraies richesses ne brillent pas. Elles se cachent dans chaque pas. Ta famille t'aime plus que l'or. Reviens avant qu'il ne soit trop fort. Ne pars pas, Samarak, ne pars pas. La guerre vole plus qu'elle ne renva. Ne pars pas, Samachaba, reviens. Restez vieillis avec les tiens.
Eh oui, nous sommes tous responsables, Christian. Eh oui, quand ces guerres, notre silence, notre absence, sans soulever, sans dénoncer, nous sommes tous responsables. Quand tu vois, les femmes sont aptes à cela pour essayer de maintenir, de garder leurs enfants, parce que les politiques qui font de la guerre et leurs enfants ne sont jamais au front.
Il faut aussi rappeler quelques chiffres douloureux. La guerre russo-ukrainienne qui actuellement, depuis 2022, a créé plus de 300 000 morts. La guerre syrienne qui est en cours depuis 2011 a fait presque plus de 500 000 morts. Au Yémen, c'est plus de 300 000 aussi. Un peu partout dans le monde, il y a des guerres.
Et la plus importante aussi, c'est la Palestine. Tout à l'heure, à partir de 15h, il y a le live. J'invite les auditeurs, auditrices. Il y a eu tout à l'heure en anglais un débat de l'émission de Feu Étienne, Tirons la chasse. Et tout à l'heure, à partir de 15h encore, suivez ce débat, donc l'émission pour la Palestine.
Oui, oui.
Mais ce qui est terrible, Mamadou et Akila, c'est que, vous voyez, moi je parle d'histoire, mais le problème de l'éducation, par exemple, hein, dans tous les pays, on parle d'histoire que de faits. On va vous parler d'une bataille, on va parler d'un président, etc. Mais jamais les politiques ne se servent de cette histoire.
Ouais. Et pour une leçon de vie.
Pour une leçon de vie. Et ils répètent les mêmes erreurs à plusieurs époques.
Oui.
Donc, si vous voulez...
Les Hitlériens, ils sont encore vivants.
Moi, je ne suis pas... moi, je suis catholique, français, d'origine manouche, etc. Mais en fait, pour moi, hein, ce qui se passe en Palestine, c'est que l'armée, hein, pas les Israéliens moyens, il est comme tout le monde, il mange, il boit, etc. Voilà. Mais les dirigeants, ils reproduisent ce que faisaient les nazis à leur peuple en 1944 dans les ghettos de Varsovie.
Tout à fait. C'est ce qu'on a vécu.
Pour moi, c'est...
Ça se répète.
Ouais, ils font les mêmes
erreurs. Tout à fait.
Et pourquoi ? Au nom de quoi ? Parce qu'ils servent toujours de l'histoire en disant qu'ils étaient persécutés, qu'ils ont été machin, mais ils reproduisent les mêmes erreurs sur d'autres peuples. À quel nom ? Enfin, c'est la schizophrénie, ou je ne sais pas. Vous voyez ?
Ouais, il est très difficile de débattre à ce sujet-là. Oui. En tout cas, nous sommes tous comptables. Voilà. Nous sommes tous comptables de ce silence, absolument. Accepter l'inacceptable.
Voilà. Oui. Et donc, comme j'avais dit déjà la semaine passée, Nelson Mandela a dit « L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde ». Effectivement, ce que je pense, c'est que les gouvernements n'aiment pas que les gens puissent réfléchir. C'est parce que comme ça, ils peuvent contrôler, ils peuvent nous contrôler, et c'est quelque chose qui est...
Là, tu veux vraiment dire qu'ils nous conditionnent. Est conditionné.
C'est mon sentiment.
C'est vrai. J'avoue, je le signe. Voilà. On est conditionné.
Nous sommes conditionnés à écouter ce qu'ils disent. Et voilà. Alors, bon, on va revenir sur des choses beaucoup plus joyeuses, parce que là, on s'éloigne un petit peu du rêve. Donc, point de vue rêve, il y a quelque chose qui a fait beaucoup rêver, qui fait rêver tous les Marseillais, c'est le football.
Ah, le fameux stade Vélodrome,
oui.
Qui était un stade avec une piste en bois de vélo. Au départ, c'était une piste cyclable. Elle a même servi au tout départ, il y a eu des corridas il y a très très longtemps. Et parce qu'il faut savoir que l'OM, de maintenant professionnel, etc., à l'époque, c'était un football amateur et le Marseillais adorait aller voir son équipe. C'était des petits stades à 10 000 ou 15 000 spectateurs maximum. Et c'est avec l'arrivée de Tapie vraiment que l'OM a décollé, est devenu un grand d'Europe.
A créé le star.
Voilà. Mais il y a 30 ans ou 40 ans, quand on allait au stade, il y avait encore la piste cyclable en bois. C'était le stade Jean Bouin, d'ailleurs, à l'époque.
Jean Bouin, c'est ça.
Oui. Et donc, le Marseillais, le dimanche, eh ben, quand il n'allait pas manger des fruits de mer sur la corniche, parce qu'on expliquait en 1920, tout ça, il y avait un tram qui passait, vous voyez, comme quoi on n'a rien inventé.
Tout à fait.
Et on allait au stade pour voir les équipes amateurs qui jouaient très bien, mais qui n'avaient pas les moyens.
Ils faisaient du régal, voilà.
Voilà, et puis ils donnaient tout leur cœur, que maintenant, des fois, on se dit, c'est professionnel, au prix où ils sont payés. On aimerait les pousser un peu.
Oui, mais malheureusement...
j'ai une blague sur l'OM, jeune homme. On va vite, avec l'accent marseillais, je vais essayer, je ne suis pas marseillais, mais vous voyez. Alors, c'est un petit, il a 11 ans, 10 ans. Et ses parents vont divorcer. Ils arrivent au tribunal civil de l'avenue de la Corse. Le juge appelle le petit. Il dit, voilà, petit, il y a une nouvelle loi qui vient de sortir. Tu peux choisir si tu vas avec ta mère ou ton père après le divorce. Mais sors, on va faire rentrer tes parents. Madame, rentrez, s'il vous plaît. Ah, oui, qu'est-ce que vous faites ? Je suis directrice d'école, etc. Imagine tout. Il fait rentrer le petit. Toi, petit, ta maman, elle a le savoir. Elle sait, c'est une directrice d'école. Elle va t'éduquer et tout. Est-ce que tu veux aller, après le divorce, vivre avec ta mère ? Eh non, monsieur le juge, le petit, c'est le vrai Marseillais. Il dit, moi, ma maman, elle m'escagasse, elle m'énerve, en vieux Marseillais. Elle me bat toute la journée, je veux pas aller avec ma mère. Bon, madame, sortez, s'il vous plaît. Monsieur, rentrez. Voilà, ton père, il est directeur d'Airbus, hein. C'est un savoir, c'est une tête, il va bien t'éduquer, tout ça, etc. Eh non, monsieur, mon papa, il m'escagasse, il me bat toute la journée. Monsieur, sortez. Et le juge, il s'énerve, il dit, mais petit, wow, l'OM, c'est pas un centre d'éducation, c'est pas une école. Il dit, au moins, l'OM, il bat personne.
Un peu d'humour,
pas de mal, non ?
Eh oui, bien beaucoup, ça fait du bien même. Ça fait du bien avec le soleil de Marseille, de temps en temps il faut revenir.
Tout à fait.
Voilà, c'est agréable.
Alors, comme on parle de soleil, eh bien, il faut savoir que la région est une région où il y a beaucoup de films qui se tournent. Je pense que c'est le soleil qui attire un petit peu.
C'est pas le soleil, Bruno.
Parce que toi, tu es un professionnel.
Excuse-moi de vous couper, c'est ce qu'on appelle la lumière. C'est-à-dire que la chance qu'on a dans cette belle région provençale, hein, parce qu'elle est immense, hein. faut savoir qu'au XVe siècle, XIVe siècle, toutes les cours européennes parlaient le provençal. C'était le dérivé du latin le plus riche. Et par les provençales, à l'époque, c'était vraiment... Mais en fait, notre belle région provençale, pourquoi il y a beaucoup d'équipes de tournage, surtout étrangères ? Parce qu'on a la lumière, c'est-à-dire qu'il pleut très peu, on a cette belle lumière, et on a des décors fabuleux, naturels, et on a de tout. Donc, et en plus, la région donne beaucoup d'argent, aide. Il y a des studios d'enregistrement, studios de tournage et tout. Et à côté, il y a eu Plus belle la vie pendant plus de 15 ans. Alors qu'il faut savoir que la Belle de Mai, ici, la rue Guibas, c'était une manufacture de cigarettes.
De cigarettes, tout à voilà. fait, de tabac.
Toi, je connais un peu la ouais. ville.
Ben oui, ben oui.
D'ailleurs, nous sommes dans
c'est agréable, c'est intéressant.
Nous sommes d'ailleurs dans cette manufacture ici, les
oui.
studios.
Oui, bah, tout à fait.
Et la Belle de Mai, il y avait un studio des allumettes. Pourquoi ? Parce qu'on faisait des allumettes au soufre et tout ça, quoi, qui était devenu un lieu de partage, de théâtre et tout. Malheureusement, il y a eu un feu il y a quelques années et il est en train de disparaître.
Mais oui, quand vous parlez de la lumière à Marseille, c'est comme beaucoup de gens qui essayent de créer ce qu'on appelle de l'énergie système solaire combiné ou bien photovoltaïque. Alors qu'on oublie que le photovoltaïque, c'est de la lumière, on crée l'électricité. Tester avec la lumière, pas seulement le soleil. Voilà, même les étoiles, ils enregistrent l'énergie solaire. Voilà, donc on confond amoureux d'une personne ou aimer une personne. On le différencie. Il suffit de traduire une phrase. Chaque lettre en français est une signification presque, je dirais, circulaire.
Et donc, pour rappeler aux enfants qu'il ne faut pas jouer avec les allumettes, parce qu'autrement, on risque de mettre le feu à la boîte.
À la boîte, oui, la boîte. Hein. Ça, c'est fort. En tout cas, il faut de l'humour, c'est intéressant. Et puis, amicalement vôtre, avant tout, satisfaire. Eh bien, on aurait aimé le numéro de standard pour poser des questions, hein, Bruno. Mm-hmm. Et donc, WhatsApp, ce n'est pas tout le monde qui est outillé. Et de toute façon, ce n'est pas un débat, c'est toujours un dimanche qui en cache un autre, un dimanche, une surprise. Et donc, c'est avec eux, c'est avec ce monde d'extérieur, c'est avec, cette réussite de la parole libre, de l'expression libre, qu'on arrive à comprendre combien les hommes, au plus petit que soit, on en a besoin. Et surtout, quand on a Christian qui nous ramène, qui nous remonte le temps, eh bien, écoutez, je crois que c'est beau de voyager, mais c'est encore mieux d'apprendre à écouter l'émission Diaspora avec Christian et Bruno. Sans plus tarder.
lolo mwen fula
Retour de Vivi, Viviane sur scène, amicalement votre avant tout vous satisfaire. Rejoindre le plateau du Sénégal, c'est aussi vous rappeler combien nous revenons toujours dans le présent, au sort du passé, avec bien sûr notre ami Lamy Diarité, sur de ce qui se passe aussi, l'évolution et l'innovation aussi de notre jeunesse, notre petit Amor, notre petit Tal de Sornin, de Khadim Sornin, de son fils actuellement en Suisse, qui nous a créé une opportunité de gagner bien sa vie proprement. Et c'est aussi un entrepreneur solidaire. Ça vaut la peine aussi d'écouter ce grand exploit signé Maestro Lamy Diarité, donc plateau du Sénégal tous les samedis, que vous pouvez écouter sur Radio Galère. Aduna ko tetu ngal
yeter sabu yer koi bangu goyer kamba isabel bangu gerga yeter sabu yer koi
Bonjour à toutes les auditrices. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. Si vous entendez ma voix dès le début de l'émission, c'est que tout simplement Richard est encore dans les avions. Et j'espère que le plus sénégalais des Comoriens, Kadhafi, fera son apparition. Et puis on va faire une dédicace spéciale. Au directeur d'agence de l'IPRES du Sénégal, véritable supporter de l'Olympique de Marseille, Bakary Djémé, dans nos murs pour regarder le match OM Montpellier. Accompagné du docteur Demba Dien, responsable du service social de l'IPRES. Mounouma Djibanyatek, mon gosse, mon ami, mon frère, Libas Ouad de l'IPRES de Dakar. Et oui, l'IPRES, c'est l'Institut de prévoyance des retraités du Sénégal. Donc, quand je serai à la retraite, j'espère que les gars, vous serez là pour m'augmenter la pension quand même. Ah ouais, j'ai oublié, moi, je travaille en France, au fait. Voilà, Guy, en tout cas, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Et notre invité, aujourd'hui, nous avons un invité sur le plateau, donc Mor Anne Sornin, qui est là sur le plateau pour discuter avec nous. Vous allez savoir, voilà, le Yungu, donc qu'est-ce qu'il fait. C'est des jeunes qui sont motivés, hein, donc voilà, je les connais, c'est des jeunes marseillais, voilà, et qui subitement donc ont grandi. Maintenant, ils sont plus grands que nous pratiquement, voilà. Et puis en taille, en talent, en compétences, voilà, c'est des jeunes vraiment qui sont très engagés et pour leur pays d'origine, souvent leur pays aussi, en tout cas de naissance, ou leur pays, les pays qui les ont vus grandir. Je parle de ça parce que ça me permet de parler de ancrage. Voilà. Ancrage, donc, cette semaine a pris date à Marseille, le 16 avril. Ancrage était là aux côtés des déterminés. Et c'est l'occasion aussi de féliciter Papilla, donc, qui est aussi un des nôtres, voilà, et Papi est le nouveau président donc de la chambre franco-sénégalaise, voilà, qui joue donc un des premiers rôles au niveau du déterminé. Et ils ont organisé vraiment une très grande manifestation cette semaine, mercredi dernier, au Faro. Voilà, et il y a eu vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Toutes les salles étaient pleines, voilà, et vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec tout le monde. D'ailleurs, il y avait même la présence donc du ministre des Affaires étrangères, Monsieur Jean-Noël Barrot, vraiment, qui a motivé. En tout cas, les jeunes lui ont aussi abreuvé des questions. Vraiment, j'ai adoré donc la question des jeunes, notamment Grace Toulomba, que j'avais reçu ici, donc un écrivain, voilà, et ça m'a fait plaisir parce que quand je le recevais ici, Grace Toulomba venait d'écrire son bouquin. Il venait d'ouvrir un de ses premiers restaurants à Marseille et devant le ministre, je lui ai entendu dire que maintenant, il a 3 restaurants. Et voilà, donc ça fait plaisir, voilà, donc d'aider les jeunes, en tout cas de faire partie des gens qui sont sur leur parcours pour leur donner un coup de pouce. Donc bravo Papilla, bravo tout simplement Grace Toulomba et bravo à tous ces jeunes africains issus donc de cette diversité et qui vivent très très bien leur multiculturalité. C'est extrêmement important de le dire. Voilà, c'est binationaux, c'est trinationaux, c'est quadrinationaux. En tout cas, tous ces jeunes-là ne sont pas du tout décomplexés. C'est des jeunes qui entreprennent, c'est des jeunes qui font donc des choses vraiment dans des domaines divers, donc domaines culturels, donc social, entrepreneurial. Vraiment, c'était une très grande réussite. Et voilà, je le remercie parce que j'ai eu l'honneur d'y participer pour parler, bien sûr, donc de la santé en Afrique au nom de Diaspora Santé Sénégal. Voilà, il a fallu aussi parler de mon parcours donc de binational, hein, parce que comme je l'ai dit, oui, moi j'ai grandi au Sénégal, je suis né au Sénégal, voilà, je suis venu ici après mes études supérieures et après je suis resté à Marseille, j'ai fondé ma famille à Marseille, je travaille à Marseille, je vis à Marseille et je n'ai aucun complexe d'avoir eu cette nationalité sénégalaise et d'avoir eu cette nationalité française, parce que justement c'est le mix des deux qui font de nous de véritables, en tout cas pas
06 44 94 56 31, en tout cas comme disent ces supports logistiques et WhatsApp, il nous fait souvent des surprises, hein. Et donc je reviens avec un tempo que Bruno me recommande de partager avec vous et amicalement vote avant tout vous satisfaire, si proche de vous.
Thank you. J'en fais pas partie et je suis pas là-bas pour cacher mon argent. Je travaille un peu, je travaille comme tout le monde. Je fais partie certainement de la classe pauvre là-bas, modestement.
La classe pauvre qui touche 10 000 euros par mois, quoi, tranquille. La Suisse, il paraît qu'on touche bien.
On touche,
attends, hésité, hein,
on
hésite,
touche 2,5 à 3 fois plus qu'en France.
Ah ouais.
Mais après, tout est...
redépensé là-bas.
Et
parce que tout est cher.
Parce que voilà, un loyer, tu vas le payer entre peut-être 1500 et 2000 euros.
D'accord.
Donc à un moment donné, c'est relatif de dire la richesse, parce que pour moi, on est tous autant riches. On te donnera toujours de quoi vivre et venir travailler en bonne santé.
Ah, je comprends mieux parce que j'ai mon meilleur ami d'enfance, lui qui travaille en Suisse, mais il habite à Annemasse, donc Annemasse du côté de la France. Donc ici, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, il traverse. Ouais, il est malin ce gosse.
Il est peut-être plus malin que moi et plus privilégié. Donc c'est lui le riche.
Djadja Poupon, on te passe le bonjour actuellement en vacances au Sénégal. Voilà, donc Morane, pour revenir justement sur le projet que vous avez mis en place, j'ai regardé quand même, j'ai fouillé un tout petit peu ce que tu fais. Moi, j'aime bien, avant de recevoir mes invités, fouiller un peu leur vie pour voir qu'est-ce qu'ils font. Et j'ai vu que vous avez commencé d'ailleurs à financer, notamment une dame, Fatou.
Okay.
Voilà. Au Sénégal, eh oui, ok, oui, j'ai tout regardé.
Bien regardé, ok.
Voilà, et en plus, Fatou n'est pas à Dakar. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça s'est passé, ces financements, et quels sont les critères pour être financé par ton mouvement?
Oui, en fait, le concept, il est assez simple, c'est que ma communauté me donne un nom de village, donc je ne le choisis pas moi, je ne choisis pas les personnes que je finance. Et l'idée, c'est de me rendre dans ce village-là, de faire une appel de fonds, une appel de projet plutôt. Ensuite, je regroupe toutes les personnes dans la même salle. On fait une journée de formation sur lesquelles ils travaillent sur leur projet, leur idée projet. Moi, je privilégie tous ceux qui sont autour des besoins primaires. Donc, y a la nourriture, la restauration, il y a le textile, il y a le transport, etc. Parce que je vais du principe que... Et je vais préciser pourquoi pas Dakar. Justement, pourquoi pas Dakar, c'est parce que je privilégie les villages. Je vais du principe qu'on laisse... les grandes villes, aux politiques, c'est leur métier. Et nous, la diaspora, venons se mettre tous ensemble pour investir dans
notre terroir
de demain. Donc
merci, Mort.
Voilà, c'est Alain, l'idée, c'est d'arriver en premier dans ces villes-là et de créer des écosystèmes, parce que même les villageois ont des besoins primaires. Ils ont besoin de manger dans des bons restaurants. Ils ont besoin de pouvoir s'habiller quand ils le veulent. Et justement, c'est ce manque-là de business dans les villages qui fait que toute la jeunesse veut quitter les villages et pour certains même prendre des risques et essayer de faire des traversées par les pirogues. C'est généralement les personnes de village qui font ces genres de trucs. Et c'est un sujet qui m'a énormément touché. D'ailleurs, c'est ce qui est à l'essence en fait d'Une semence, un espoir. Parce que l'idée m'est venue en 2015 quand j'ai lu le livre de Fatou Diome. C'était Le ventre de l'Atlantide.
Le ventre de l'Atlantique.
Si je me rappelle
tout
bien.
Tout à fait.
Voilà, et c'est un sujet qui m'avait énormément touché. À cette époque, j'ai toujours eu le sens des responsabilités. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour cette cause? Et donc je me suis dit, je vais créer une centaine d'emplois en Afrique avant la fin de ma carrière. Et aujourd'hui, je trouve que cet objectif est très peu ambitieux. Mmh. Et maintenant, on veut en créer 100 par an. Et je vais m'appuyer sur la diaspora et sur toutes les forces qui pensent que c'est une bonne cause.
Justement, j'aimerais quand même qu'on soit plus factuel, qu'on soit en tout cas dans du réel. Je voudrais qu'on revienne sur cette Fatou. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus? Comment Fatou a été choisi? Qu'est-ce que Fatou a fait? Est-ce que Fatou rembourse? Dites-nous tout sur Fatou.
Ok. Donc, Fatou...
Qui est un exemple, bien sûr, de tout ce que vous faites.
Exactement. On était allé dans la région de Djourbel, à Touba. Et l'idée, c'était de justement apporter à cette communauté-là le financement de 10 entrepreneurs. Ces 10 entrepreneurs-là, on les a regroupés, en fait. Ils ont travaillé sur leur projet. Dès le lendemain, d'ailleurs, Fatou, c'était la première. Elle était la plus déterminée. Je l'ai accompagnée pour aller acheter ses matières premières. En fait, on ne leur remet pas l'argent en main propre. On les accompagne pour faire leurs achats. Une fois qu'on a fait leurs achats, le lendemain, on fait l'installation de leur entreprise. Ça dépend pour certaines, c'est chez eux. Pour d'autres, c'est dans des locaux. Et l'idée, c'est de les accompagner pour aller chercher leurs premiers clients. Et tout ça, c'est filmé et c'est diffusé sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Une semence, un espoir. L'idée à la base, c'était de le faire moi tout seul. Mais là, plus j'avance et plus je me dis, il faut que j'associe des personnes qui pensent comme moi. Et c'est pour ça que pour cette saison-là, la saison 2025, j'ai donné l'opportunité à des personnes de faire des cotisations sur un compte Ulule. Et tu m'as posé la question, est-ce qu'elle rembourse ? Oui, elle rembourse. Ah. Au bout de 2 mois, elle rembourse 5 000 francs CFA par mois. Et ces 5 000 francs CFA fois 10 permettent de financer une nouvelle personne tous les 2 mois. Donc, il y a des personnes en liste d'attente parce que bien évidemment, on n'a pas pu financer tout le monde dès la première traite. Et du coup, les personnes en file d'attente reçoivent les 5 000 francs CFA de ceux qui ont déjà été financés tous les 2 mois de manière à pouvoir lancer leur entreprise. C'est un peu inspiré de la tontine. Et c'est un principe qui est beaucoup aussi utilisé en Asie, notamment en Chine et au Pakistan. Ils font même en Suisse, pour vous dire, à des échelles beaucoup plus importantes.
D'accord.
Et donc voilà, pour revenir, ben voilà, en résumé.
En tout cas, merci Maestro d'avoir invité ce petit jeune prodige qui est notre enfant. Et le papa, justement, quand on voit que son papa aussi, après sa retraite, il a fait un concept, une restauration, le goût de l'autre. Et en tout cas, ceux, nos Français, nos étrangers, nos Européens qui aiment le Tchébillon à Dakar, quand vous arrivez là-bas, on vous conseillera d'aller déguster ce beau restaurant qu'il a fait aussi son papa. Mort actuellement, qu'il est en Suisse avec son épouse qui est ma nièce, et je leur souhaite vraiment tout le bien. En tout cas, merci Maestro Lamindiarate. J'espère que beaucoup d'autres jeunes feront ce concept. Oui, en tout cas, pensez-y à nos terroirs. Depuis feu, Léopold Sédar Senghor avait rendu hommage à la diaspora sénégalaise, à surtout ceux qui sont vraiment d'origine de ce terroir, de pouvoir y apporter, non pas seulement venir pour prendre. Voilà, c'est de l'excellence idée, c'est le talent, c'est la suite. Et je pense que l'État ne peut pas tout faire. L'une des raisons d'ailleurs, il s'investit sur un prodige avec bien sûr des bons partenaires qui vont l'accompagner pour que ça soit une réussite totale. Christian, je reviens. Le goût de Marseille, Ayuli, et Ayuli aussi, c'est une des plats de Marseille, qui a fait Jobalar d'origine arménienne, son succès reggae, mais vraiment le reggae méditerranéen. Et pendant des années, j'ai accompagné, c'est un ami, il a été mon invité à plusieurs reprises à Radio Galère à Marseille. D'ailleurs, la communauté arménienne, j'ai beaucoup de respect parce que j'ai beaucoup d'amis. Et à travers de cela, dans le stade, le gardien de ce stade, qui est le stade carrément affilié à l'équipe arménienne, c'est un ami Patrick, je lui fais coucou, et sa femme Charlotte, qui a été au Sénégal avec le comité des médecins, de tout le domaine de la santé, ils sont allés au Sénégal. Ils doivent faire justement un recueillement pour le projet le 10 mai. J'espère que je ferai tout d'y être puis pour les saluer et les encourager. Bruno, je crois que les idées, les projets, nous tous on les a, c'est les mettre... justement,
en application
qui est très difficile, surtout quand on n'est pas secondé, on ne peut pas tout faire et c'est dur d'être seul parce que l'argent ne fait pas tout aussi.
C'est ça.
Voilà, sans bon conseil.
L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. Il faut déjà avoir l'envie. Je pense que si on n'a pas envie, même ce que a dit une personne hier à la réunion où j'ai assisté chez cette association comorienne, c'était que même si on donne quelqu'un, si on donne 1 million d'euros à quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose, en un mois, il aura dépensé, mais il n'y aura pas de résultat. Donc, au départ, il faut l'envie. Il y a quelque chose qui dit... des gens réussissent à faire des choses parce qu'ils ne savent pas que c'est impossible. Et si on ne tente pas, on ne peut pas réussir quelque chose. Il faut avoir énormément d'envie et il faut avoir envie de réussir. Après, on peut bouger les montagnes. Nous sommes suffisamment nombreux pour faire des choses incroyables. Il y a des gens, comme je disais, qui ont inventé l'électricité, qui ont inventé les avions, qui ont inventé peut-être des mauvaises choses, parce qu'après, c'est l'être humain qui est un peu perverti et qui fait des mauvaises choses avec des inventions. Mais il faut agir. Effectivement, juste faire de la réflexion, rester assis et faire de la philosophie, c'est bien, mais il faut agir. Si on veut que le monde change, il faut agir. Je voulais faire et revenir un petit peu sur Marseille et faire une petite parenthèse également sur le stade Vélodrome. Il faut savoir que l'Olympique de Marseille a eu également une section rugby à 15 de 1899 aux années 40. Le rugby était présent à Marseille beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant c'est
le foot est devenu populaire, mais le rugby il a toujours existé. C'est la force des hommes.
C'est ça.
Et aujourd'hui, les femmes, maintenant, rugby woman.
Mais je peux même vous dire que ma petite fille est professionnelle en rugby.
Et de plus en plus, et comme dans le football.
Elle est professionnelle de rugby à Aix-en-Provence. Bon, Christian, Marseille était aussi une ville rebelle.
Oui, ça a toujours été une ville rebelle. Et vous avez deux forts, le fort Laurent et le fort Nicolas. Et le fort Nicolas a été construit à partir de Louis XIII, Louis XIV, Louis XV. Et il faut savoir que les rois français n'avaient pas confiance en la ville de Marseille. Et une à deux fois par mois, ils faisaient tonner le canon sur les habitants pour les calmer. Et il y a un écrivain qui s'appelle Edmond Rostand, qui était venu avec une délégation royale, et il a eu peur des Marseillais. Il a dit « jamais vu autant de personnes autant surarmées que les Marseillais ». Donc Marseille, bien sûr, la Marseillaise, la Révolution, ça a toujours été un berceau rebelle. Déjà, les Grecs se sont révoltés contre Jules César, contre les Romains, etc. Donc tout le long, d'où cette ville est multipote, et aussi bigarré, et malheureusement il y a beaucoup d'endroits qui sont pas très jolis parce qu'elle a beaucoup été bombardée, elle a été détruite, elle a été reconstruite, mais depuis le départ des Grecs, il y a eu ce côté rebelle, ce côté on est différent et on se laisse pas faire. Et donc on retrouve ça dans le caractère du Marseillais, un peu ténébreux, un peu ombrageux.
Dans le sang des Marseillais.
Voilà, mais grand cœur quand même, le cœur du soleil.
Tout à fait.
Christian, est-ce que tu as une anecdote par rapport au château d'If ?
À le château d'If, il y a un truc rigolo, c'est que le roi du Portugal aurait, parce qu'on n'avait pas WhatsApp à l'époque, aurait offert un rhinocéros. Et pendant 10 ans, ce rhinocéros aurait vécu, ou survécu, on va dire, au château d'If. Donc voilà. Mais après, la fameuse histoire du comte de Monte Cristo, tout ça, donc c'est l'écrivain, comme il s'était... il a ponté ça sur un curé, qui c'était le curé d'Ars, donc c'était un curé à côté de Nîmes, qui avait une fortune, il y avait un prisonnier, et donc ce curé d'Ars a expliqué à ce prisonnier qu'en se sauvant, il lui donnerait sa fortune. Et l'histoire du comte de Monte Cristo est issue d'une vraie histoire. Comme quoi, vous voyez, on part d'une histoire et on va sur la...
On est lié de la même histoire, quoi.
Voilà, voilà. Et ça en a fait un roman et des films merveilleux. Mais c'est encore une histoire locale qui est connue mondialement, quoi. Le comte de Monte Cristo, c'est Marseille.
Ouais. En tout cas, tu es en train de me faire penser à nos grands cinéastes, poètes, écrivains, Rému et Fernandel. Qu'est-ce qu'ils font pas revivre l'histoire au présent? Et il y a tout qui s'efface d'un seul coup, et en parler aujourd'hui, on n'a même pas préparé cette émission. Christian, c'est un Marseillais ou quelqu'un de passage, il va entendre ce que tu viens de nous révéler. Et je crois que on appelle ça une bibliophile. Voilà, écrire l'histoire et sans avoir un document ou un livre devant soi, c'est de revivre pleinement de son rêve et de sa cité. Et Marseille, bon, vivre ensemble, c'est ce que tu viens de nous dire. Il y en a les pêcheurs, il y a les cordonniers à côté, il y a la restauration à côté, il y a d'autres qui font du bruit, il y en a qui font de la musique. Et ben c'est ce qui anime cette belle cité, Marseille. Et est-ce que Marseille n'est plus comme avant? C'est ce qu'on peut retenir.
Ça a beaucoup changé.
La mentalité aussi.
Le panier, c'est bobotisé, c'est parisianisé. Moi, j'ai connu encore il y a 40 ou 50 ans, les femmes, elles se passaient leurs petits sacs pour faire les commissions d'une fenêtre à une autre.
Oui.
Toutes les portes étaient ouvertes. Au début, j'ai...
L'essentiel, c'était envoyer le panier par le filet et le remonter par le filet.
Voilà. Alors, il y a plusieurs légendes sur l'histoire du panier. La plus plausible dans l'histoire, ça serait un relais de chasse. À l'époque, il y avait des relais avec les chevaux. Et donc, le monsieur aura eu, à l'entrée de son auberge, une enseigne de panier. Donc, ça aurait été... Voilà. Mais en fait, le panier, avant, c'était le vrai Marseille. Moi, j'ai connu, toutes les portes étaient ouvertes. Et au début, j'habitais. Ben, vous aurez oublié le beurre. Vous allez chez le voisin. Il me dit, il n'y a pas de souci. Ben, j'ai un morceau de viande. Viens le manger. Et voilà, c'était le vivre ensemble. Mmh. Et ce qui est impressionnant, c'est que toutes les vieilles dames et les vieux monsieur qui avaient plein de légendes, qui avaient cette chaleur dans le cœur et dans le parler marseillais, ben l'après-midi, ils étaient sur des bancs à l'ombre et ils racontaient leur Marseille. Donc là, c'était vraiment le Marseille il y a 40 ans. Et tout ça a disparu parce que maintenant, malheureusement, toutes ces belles maisons sont devenues des Airbnb. Mmh. J'ai rien contre les touristes. On a besoin du tourisme. Mais trop touristes tuent le local. Quoi.
Mmh. D'accord. L'aide au développement aussi freine le vrai développement. Et on ne va pas tarder à se quitter aux centaines puisqu'on a une émission spécialement donc, pour la Palestine que je ne voulais pas en prendre ni 5 minutes ni 10 minutes. Et en tout cas, le combat continue dans tout à chacun. Havre de paix, œuvrons pour la paix. Je crois que c'est le seul arme que nous puissions y rêver. Si le rêve est... Il faut qu'on rêve et cela, c'est la volonté des uns des autres. Et notre silence, tous et notre absence, on est tous responsables à ce qui s'est crime, etc. Donc il faut soulever, il faut oser et en soulever en dénonçant. Voilà, donc vous voulez pas qu'il vous arrive, ne le faites pas aux autres. Et la guerre n'apporte que des merdes, que de la haine et des ennemis. Et je laisserai bien sûr tout à l'heure de WhatsApp. Nous avons été interrompus par l'ordinateur qui voulait aussi nous dire il y a la mare. Et donc on reviendra, malgré je ferai l'enregistrement de l'émission. On laissera l'émission Plateau du Sénégal conclure avec Mort qui veut toujours faire comme le travail, le rêve de tout le monde, mais le concept, il est sur le résultat, comme disait Bruno, c'est le résultat qui compte, et c'est la concrétisation, parce que rêver, certes, mais je crois qu'il faut aller direct, qui tente à rien n'a rien, donc il faut oser le faire, parce que les politiques ne sont pas là pour tout faire, d'ailleurs, ils ne sont pas destinés, puisque va dans mon bureau si je suis, ça c'est la politique. Voilà. Alors, Bruno, pour conclure éventuellement, pour fermer l'émission.
Ben pour conclure, ben donc je vais donner ce petit mot que tu cherchais. C'est Alexandre Dumas qui a écrit le conte de Monte Cristo. Et puis, ben, écoutez, c'est très simple. La conclusion va aller très, très vite. On va se dire au revoir. On va se donner du bonheur. On va s'échanger de l'énergie positive. Et puis, on va se dire à dimanche prochain, même heure, 13h. 15h. Et puis surtout, je vous souhaite à tous une merveilleuse semaine ensoleillée, pleine de joie, pleine d'amitié et partagez le bonheur. Arrêtons de penser tous ces trucs négatifs. Arrêtons de trop regarder aussi la télévision qui nous abrutit. Passez du moment avec vos amis, passez du moment avec votre famille.
Non stress, non angoisse. En tout cas, Christian, je n'ai pas de pastis à t'offrir, mais je pense que le goût, on l'a senti en parlant de tout ce qu'on a parlé sur l'histoire de Marseille. Et ça nous rapproche, ça nous remonte le temps. On peut rendre hommage aussi à tous les anciens de Marseille qui aimaient cette ville et qui le restera parce que les morts ne sont pas morts. Ils dorment et ils veillent sur nous comme nous veillons sur eux par nos prières, n'est-ce pas? Alors, le mot de la fin, Christian?
Eh ben, du soleil, du bonheur et tendez la main à l'autre, essayez d'être solidaire. Et comme dit Bruno, eh ben, si à notre échelle, on peut amener son petite contribution à l'humanité,
les
petits cailloux font les grandes rivières.
Oh là là. Je crois que Christian, tu risques de revenir parce que nous avons posé un peu de la philosophie française qui a même sauvé la France, la philosophie française, parce qu'aujourd'hui, personne n'en veut la France partout dans le monde parce qu'il a tout extrême, elle est nuisible, il nous donnait cette leçon, mais malheureusement, cette grandeur de la France qu'on aimait tant, et aujourd'hui le monde est entre parenthèses. Je me méfie de Christian comme je me méfie de Bruno. Je me méfie de moi-même, puisque manque de confiance en soi. Vous voyez, là, les pathologies de nos jours, le diabète, la tension, je ne sais pas quel type de malade, et c'est le stress. Et personne n'a confiance à personne. Les politiques, au lieu de nous tirer d'en haut, et c'est en France, les retraites très pauvres. Hein. Vous savez, au Mayotte, les retraités, ils n'ont que 100 euros. Et ça, je viens de l'apprendre quand ils me soulèvent les associations comoriennes. Je crois que les citoyens, ils doivent s'en prendre leur destin en main. Oui. Voilà. Travailler. Je pense qu'on dit l'argent pas l'argent. Si vous pensez que la retraite va vous nourrir,
vous allez mourir.
Voilà. Soyez armés, reconstruisez une autre vie et reconversion. On va se quitter avec Plateau du Sénégal, que des gens qui nous ont pris en cours ont été coupés par justement la machine qu'il en veut autrement. Lui aussi, il a des migraines, hein, n'est-ce pas?
La technologie prend le contrôle.
Elle a vu un pastis, ça.
Voilà, justement, il manque cela. Et puis voilà, amicalement votre, je vous dis encore bon dimanche et puis à bientôt. Voilà.